Il est 8h19 à Paris. Frédéric Rivière, votre invité ce matin, Pierre-Alexandre Anglade, président de la Commission des Affaires Européennes de l'Assemblée Nationale et député Renaissance des Français de l'étranger.
Bonjour Pierre-Alexandre Anglade.
Bonjour.
Vous rentrez tout juste d'Ukraine. Vous étiez l'un des membres de la délégation parlementaire emmenée par la présidente de l'Assemblée Nationale, Yael Braun-Pivet. Qu'avez-vous vu et qu'avez-vous entendu lors de ce séjour en Ukraine ?
Nous avons vu d'abord les responsables politiques du pays, notamment le président Zelensky, le président du Parlement, le Premier ministre, qui nous ont d'abord remerciés pour le soutien qu'apporte la France depuis maintenant de nombreux mois à la résistance ukrainienne. Nous ont évidemment demandé de poursuivre ce soutien, qu'il soit militaire, diplomatique, économique et humanitaire. Et à ce titre, il y a un bateau qui est parti de Marseille avec des tonnes d'aide qui va arriver en Ukraine demain, normalement, et donc avec notamment de l'aide humanitaire, un pont mobile pour permettre de reconstruire les infrastructures. Et puis ce que j'ai vu, c'est évidemment la brutalité de la guerre. J'ai vu les réfugiés de guerre, ces femmes et ces enfants, parce qu'on ne parle pas d'hommes, puisque les hommes sont restés au front pour combattre dans leur pays. J'ai vu la brutalité et la violence de l'artillerie russe, qui cible en priorité les infrastructures civiles. Ce sont les écoles, les habitations, les hôpitaux qui sont les cibles prioritaires des bombes russes. Et donc, c'était un voyage marquant et important, puisque c'était le premier déplacement d'un président, en l'occurrence d'une présidente de l'Assemblée nationale et d'une délégation depuis l'indépendance de l'Ukraine au début des années 90.
Vous dites que le président Zelensky vous a remercié pour le soutien de la France. Pourtant, parfois, le président ukrainien reproche en termes à peine voilés à la France de ne pas en faire assez pour l'Ukraine, pas assez d'aide militaire, pas assez non plus de condamnation de Vladimir Poutine, en tout cas, selon lui, pas dans des termes suffisamment explicites. Est-ce que ces critiques, vous les comprenez ou est-ce qu'elles vous semblent injustes ?
D'abord, il ne nous l'a pas dit. Il ne nous a pas critiqué aujourd'hui, mais parfois...
Il le dit, vous le savez.
Parfois, il peut le dire de façon voilée. Moi, je comprends la position du président Zelensky, qui est le président d'un pays en guerre, et donc qui regarde ce conflit avec ces lunettes-là. Et donc qui attend forcément toujours plus de la communauté internationale, puisque son pays est mis au défi par un agresseur qui est plus fort que lui. Et donc, lorsqu'il dit que les uns et les autres peuvent faire plus, c'est tout à fait légitime de son point de vue. Cela étant, la France s'engage beaucoup en Ukraine. C'est-à-dire, les canons César qui sont livrés sont très largement plébiscités par l'armée ukrainienne qui y voit toute l'efficacité de cette arme. Sur place, nous avons des gendarmes français qui sont en train de mener l'enquête sur les crimes de guerre éventuels perpétrés par la Russie, notamment dans la région de Kharkiv, à Izium. Nous avons un laboratoire ADN pour permettre, qui est laboratoire parmi les plus pointus au monde, qui va permettre d'identifier les victimes. Nous livrons de l'aide humanitaire. Nous permettons de maintenir le front uni des Européens face à la Russie de Vladimir Poutine, à un moment donné où parfois certains pays aimeraient desserrer l'étau sur la Russie. Donc la France agit beaucoup, elle agit résolument, elle continuera à le faire.
Dans quel état d'esprit avez-vous trouvé le président ukrainien ? Déterminé à mener le combat ? Déterminé à reconquérir tout ce qui a été pris par la Russie ?
Oui, une très très grande détermination, une très grande volonté d'aller de l'avant. Son pays est victime d'une agression. L'Ukraine n'est pas attaquée pour ce qu'elle fait. Elle n'agresse ni ne menace personne, elle est attaquée pour ce qu'elle est. C'est-à-dire un pays libre, démocratique et souverain qui a fait le choix de se tourner vers l'Europe. Et donc, cette agression injuste renforce la détermination des Ukrainiens qui mettent beaucoup de cœur au combat et qui aujourd'hui ont pour objectif très clairement de recouvrir l'intégrité territoriale de leur pays jusqu'au bout. Et il nous l'a dit dans ces termes-là, avec la plus grande détermination. Et je crois qu'ils iront, effectivement, en tout cas, tant que l'aide internationale sera là, jusqu'au bout.
En prévenant, je reprends les termes du président Zelensky, que les soldats russes seraient tués un par un.
Oui,
est-ce qu'il vous arrive de vous demander, parfois, si l'on ne se dirige pas vers une catastrophe mondiale ?
En permanence. Je pense que chaque responsable politique devrait avoir ça à l'esprit. Le moment de tension exceptionnel dans lequel nous nous trouvons, la violence débridée, les ruptures qui peuvent exister entre la Russie et le monde occidental. Mais ce que je note aussi, c'est le très grand isolement de la Russie. Aujourd'hui, la Russie est seule. Et ce qui s'est passé la semaine passée au Conseil de sécurité des Nations Unies, ou même des soutiens potentiels de la Chine, de la Russie comme la Chine, se sont abstenus, démontrent son isolement croissant. Et le discours très dur de Vladimir Poutine, qui au fond, vendredi dernier, nous a dit qu'il était non seulement en guerre contre l'Ukraine, mais qu'il se pensait en guerre contre tout l'Occident, contre ses valeurs, et au cœur de cet Occident, l'Europe. Et donc oui, le moment que nous traversons est un moment grave, c'est pour ça qu'il appelle à beaucoup de responsabilités, beaucoup de mesures dans les propos, mais aussi un soutien nécessaire à l'Ukraine, parce que regardons les choses telles qu'elles sont. Si les Européens, si les Américains n'avaient pas soutenu l'Ukraine le 24 février dernier, les Russes seraient déjà à Kiev. Et le régime politique que nous connaissons aujourd'hui en Ukraine ne serait plus celui-là.
Qu'est-ce qu'il reste comme porte de sortie pour vous à Vladimir Poutine aujourd'hui ?
Il en reste peu, il en reste très peu. En réalité, on sent bien qu'il est sous la pression des plus durs du régime, que lui-même s'enferme dans une sorte de révisionnisme historique des relations entre son pays et l'Occident et l'Europe en particulier. Et donc, il faut qu'il arrive à revenir à la raison. Mais je ne crois pas que ce soit l'état d'esprit dans lequel il se trouve aujourd'hui. Je pense que Vladimir Poutine est dans une fuite en avant qui est, à mon sens, très dangereuse et très inquiétante pour l'avenir.
Un débat sur l'Ukraine va avoir lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, donc pour l'ouverture, pour la rentrée parlementaire. À quoi va-t-il servir ce débat ?
Il va servir d'abord au gouvernement et en particulier à la Première ministre de remettre en perspective l'action menée par la France depuis 6 mois. La façon dont nous agissons contre les conséquences de ce conflit, parce que cette guerre n'a pas que des conséquences sur l'Ukraine, elle a des conséquences sur l'Europe et même sur le monde en général, sur l'énergie, sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation. Et puis, ça va permettre aussi aux formations politiques de dire clairement quelle est leur ligne sur l'Ukraine et qu'est-ce qu'ils préconisent pour la suite du conflit. Il y a beaucoup de flou, beaucoup de troubles, notamment au Rassemblement National, à la France Insoumise, qui, en cœur, se scandalise de ce qui se passe en Ukraine, mais dans le même temps demande à ce que les sanctions soient levées et que les livraisons d'armes soient arrêtées. Et donc, nous verrons ce que les uns et les autres diront cet après-midi.
Pensez-vous que les Français soient favorables au soutien à l'Ukraine, quoi qu'il leur en coûte ?
Je ne sais pas s'ils le sont majoritairement. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce soutien est important pour la France et pour l'Europe. Parce que ce que nous a appris Vladimir Poutine depuis maintenant près de 15 ans, c'est que chaque agression, chaque invasion en précède une autre. Et donc, très objectivement, après avoir attaqué la Géorgie, après s'être emparé de la Crimée, d'une partie du Donbass, il a voulu s'emparer de toute l'Ukraine. Il n'a pas réussi parce que nous l'avons empêché. Mais on peut se dire que si demain il décidait de poursuivre et qu'il arrivait à conquérir l'Ukraine, il pourrait avoir des velléités sur d'autres régions d'Europe, notamment les États baltes ou la Pologne. Et donc ce conflit concerne la France et tous les Européens. C'est pour ça que ce soutien est extrêmement important, parce que si nous n'arrêtons pas Vladimir Poutine maintenant, alors nous ne connaîtrons peut-être plus la paix et la sécurité en Europe pendant longtemps.
Et s'il y avait par exemple des coupures d'électricité cet hiver, vous pensez que ça pourrait mettre à rude épreuve la solidarité avec l'Ukraine dans l'esprit des citoyens français ?
Bien sûr, c'est pour ça que le gouvernement et les autorités européennes, la Commission européenne, le Parlement européen, prennent des mesures dès à présent pour éviter que nous retrouvions dans une situation de tension trop aiguë sur notamment l'énergie, qui pourrait effectivement avoir des conséquences. C'est le plan de sobriété qu'on met en place au niveau national, c'est le remplissage des cuves de gaz au niveau européen qui doivent nous permettre de passer l'hiver. Mais effectivement, cette guerre aura des conséquences. Mais, et le président de la République l'a dit lui-même, il faut être prêt à payer le prix de la liberté, de la démocratie. Moi, je pense que si nous ne sommes pas prêts à le payer maintenant, nous paierons plus tard un prix beaucoup plus élevé. Je le disais, peut-être celui de la division, peut-être celui de l'insécurité et de la guerre en Europe.
C'est aujourd'hui donc la rentrée parlementaire avec ce débat dont on vient de parler. Une rentrée que tout le monde annonce électrique. Est-ce que c'est aussi ce que vous imaginez ?
Je l'espère pas. Je l'espère pas parce qu'on peut pas se payer le luxe de l'instabilité au Parlement, du cafouillage et du bazar. On a besoin d'avoir un Parlement qui fonctionne. On vient d'en parler pendant 5 minutes, nous sommes dans un temps...
Mais dans sa diversité politique.
Mais évidemment, et chacun peut le faire valoir. Mais à un moment donné, il y a un débat. Et à un moment donné, il faut être capable d'avancer. Si c'est pour se retrouver face à des oppositions qui font le choix du chaos, de l'obstruction, ça va pas fonctionner. Et je pense que les Français ont pas fait le choix d'élire un Parlement différent pour que celui-ci soit bloqué ou inefficace au bout de 2 ou 3 mois d'action. Donc il y a un esprit de responsabilité à avoir dans les temps qui sont les nôtres. La majorité est prête à construire des ponts avec les groupes d'opposition, les républicains, les socialistes, les écologistes, et c'est de cette façon-là qu'on doit avancer, certainement pas dans le chaos et dans le bazar.
Merci Pierre-Alexandre Anglade. Bonne
Merci
journée
à vous.